Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, nous abordons à présent notre premier thème du jour, comment réussir l'intégration d'un enfant vivant avec handicap. Vous savez, un enfant qui a un handicap moteur, cet handicap peut constituer un frein à l'intégration sociale de l'enfant. Il peut se sentir diminué physiquement et il peut développer les complexes d'infériorité. Cela peut le bloquer, l'empêcher d'exploiter au maximum ses potentiels. Alors comment l'aider à briser le complexe afin de se tailler une place de choix dans la société? Madame Yvette Kousseyo est notre invitée aujourd'hui. Elle est vice-présidente de l'ONG Noémie, les écoles du cœur. Madame Yvette Kousseyo, d'abord, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui bloque souvent les enfants qui ont des handicaps moteurs? Qu'est-ce qui les empêche souvent de ne pas s'exprimer, de ne pas s'épanouir et surtout de s'intégrer dans la société? Madame Yvette, apparemment, elle n'est plus en ligne. On va tenter de la rappeler. Je disais qu'elle est vice-présidente de l'ONG Noémie, les écoles du cœur. Avec elle, nous allons aborder ce thème aujourd'hui. Comment réussir l'intégration d'un enfant vivant avec handicap. Je disais tout à l'heure qu'un handicap physique peut constituer un frein à l'intégration sociale d'un enfant. Il peut se sentir diminué physiquement et cela peut le pousser à développer les complexes d'infériorité. Ça le bloque et l'empêche d'exploiter au maximum ses potentiels. Alors, comment l'aider à briser ses complexes, à s'étayer une place de choix dans la société, à s'intégrer dans la société? Ça peut être à l'école ou au quartier, là où il vit, voilà, et dans les différents milieux. On en parle avec notre invité aujourd'hui. Alors, vous avez des questions, vous avez des témoignages, des préoccupations par rapport à ces thèmes. Appelez-nous déjà, n'attendez pas les dernières minutes. Appelez-nous au 081 890 63 94. Madame Yvette Kousseyo, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors dites-nous madame, quelles sont les raisons qui peuvent empêcher un enfant qui a un handicap de s'intégrer dans la société?
La première raison, c'est la non-acceptation de l'enfant à partir de la famille. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et la deuxième raison, c'est le rejet de la société, je le dis en général, le rejet de la société, je veux dire, c'est la stigmatisation, le regard des autres, et on a les églises qui stigmatisent les enfants en les traitant d'enfants sorciers. En fait, c'est tout ça qui fait en sorte que l'enfant aura un mal à s'intégrer au sein de la société congolaise.
Alors, vous avez parlé d'une non-acceptation au niveau de l'enfant par sa famille et le rejet de la société. Alors, au niveau de la famille, qu'est-ce qui arrive souvent?
Bon, au niveau de la famille, quand un enfant naît différent avec un handicap, ça peut être un handicap sensoriel, ça peut être un enfant aveugle, un enfant avec handicap physique ou un enfant carrément avec une maladie chronique invalidante. La mère, le père, la famille rejettent l'enfant. Et souvent, l'enfant est stigmatisé, l'enfant est maltraité. Et on retrouve beaucoup d'enfants comme ça dans la rue. On retrouve beaucoup d'enfants abandonnés dans les hôpitaux. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et je pense que l'État congolais devrait mettre des garde-fous et même arrêter cette impunité parce que je pense qu'on doit limiter le pouvoir des parents vis-à-vis des enfants handicapés. Et lorsqu'un parent maltraite son enfant, ce parent doit être sanctionné. Et lorsqu'il y aura ça, et même si ce n'est pas les parents directs, que ce soit les parents, soit une église de réveil, etc., il faut vraiment qu'il y ait des sanctions. Et ça permettra maintenant à la société de pouvoir accepter et de rendre la dignité aux enfants vivant avec handicap.
Alors, quel est le type de maltraitance que les familles font à ces enfants handicapés?
Ah, mais il y en a beaucoup. Par exemple, il y a des familles qui refusent l'alimentation de leurs enfants. On leur dit « retourne d'où tu viens », on les fouette, on leur fait toutes sortes de choses incroyables et qui est caché parce que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas assez. Nous qui travaillons dans les hôpitaux, dernièrement nous avons eu une petite qui a été abandonnée par sa mère, on l'a trouvée dans la rue je crois du côté de la commune de Baroumbou, tout simplement parce que cette petite fille a les pieds beaux. Les pieds beaux c'est une malformation au niveau des pieds. Et pourtant, ce sont des malformations qui s'opèrent et qui se soignent, mais par une carence de communication.
Ou d'information.
La mère, avec les moqueries de son entourage, a préféré abandonner cette petite fille de 9 mois et qui se trouve à l'hôpital général de Kinshasa au moment où je vous parle. Mais des cas comme ça, il y en a des centaines ici en République démocratique du Congo.
Voilà, donc c'est d'abord au niveau de la famille que ces enfants sont maltraités. Alors au niveau de la société, vous avez parlé du rejet de la société. Avant d'aborder de parler de cela, nous allons accueillir un auditeur, Séoul, qui nous appelle des Kananga dans la province du Kassai occidental. Séoul, bonjour. Séoul, bonjour. Voilà, Séoul n'est plus en ligne, il va sûrement nous rappeler. Alors parlons maintenant du rejet au niveau de la société. Comment ce rejet se manifeste, Madame Kouseyou?
Mais le rejet de la société, c'est d'abord la mauvaise sensibilisation de la population, ce qui fait que la population se permet de rejeter des moqueries, etc. Et par exemple, au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau du travail, vous voyez vraiment que les personnes vivant avec handicap sont marginalisées. Heureusement, maintenant, il y a la loi qui est votée et il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Même, je viens de recevoir une invitation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Pas plus tard que demain, ils sont en train d'organiser le processus des États généraux sur la situation des personnes vivant avec handicap. Je trouve que c'est très bien. Les choses bougent et je remercie le président des associations des personnes vivant avec handicap, Monsieur Ekanga, qui est le promoteur des écoles Izipa. Il fait beaucoup de choses et parce qu'il est lui-même l'ambassadeur des personnes vivant avec handicap. Mais ce sont des cas, malheureusement, qui sont vraiment un peu rares. Et il faudrait plus que l'État puisse donner l'accessibilité des personnes vivant avec handicap dans tous les bâtiments publics, dans les écoles. Ça permettrait maintenant à tous ces gens qui sont, et ces enfants qui sont cachés chez eux, de pouvoir circuler et de pouvoir maintenant que normaliser cette circulation vis-à-vis des autres. C'est ça.
Oui, voilà. Comment réussir l'intégration d'un enfant vivant avec handicap dans la société? Sylvain nous appelle des Demba, dans la province du Kassai occidental. Vous voulez également participer? Composez le 0 81 890 63 94.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Comment réussir l'intégration sociale d'un enfant vivant avec handicap? Sylvain, vous nous appelez des Demba, au Kassai occidental. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je suis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité, mais aussi à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, j'ai certaines préoccupations. Je voudrais demander à l'invité de me dire l'implication de l'État congolais vis-à-vis des difficultés qui se passe auprès des enfants vivant avec un handicap. La deuxième question, les albinos font aussi partie des personnalités qui vivent avec handicap. Si cette pensée est meilleure, dans quelle catégorie pouvons-nous les classer? La troisième question, comment s'appelle le TID qui s'occupe des enfants ou des personnes vivant avec handicap? La quatrième et dernière préoccupation, est-ce que les pygmées sont aussi des handicapés? Merci à l'invité, merci à vous les journalistes.
Bien, nous avons un autre auditeur de Kananga, Séoul Ngalamouloumé, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Nkachama et aussi à toute l'équipe de Locati Service. C'est Séoul Ngalamouloumé à partir de Kananga.
On vous écoute, quelle est votre préoccupation?
Concernant ce présent sujet, moi je trouve que l'intégration d'un enfant vivant avec handicap est une affaire de toute la communauté.
Ah, désolé, décidément, aujourd'hui, il y a quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Séoul, c'est la deuxième fois qu'il nous quitte. Bon, je crois qu'il va encore nous rappeler. Alors, madame Yvette, vous avez suivi le premier intervenant, Sylvain. Sa première question est de savoir quelle peut être l'implication de l'État congolais pour faciliter l'intégration des enfants vivant avec handicap dans la société.
Merci monsieur et merci pour la question à l'auditeur de la radio Okapi. L'implication, en fait le problème de l'handicap est un problème transversal. L'implication de l'État doit se faire au sein du gouvernement. Et c'est tous les ministères qui doivent être impliqués. Parce que pour l'accessibilité par exemple, vous avez le ministère des Travaux publics, vous avez de l'habitat et de l'urbanisme. Par exemple, vous voyez, nous sommes en train de faire des grandes infrastructures, mais il n'y a rien qui est prévu pour les personnes vivant avec handicap. Vous voyez? Les personnes vivant avec handicap ont peur, ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'il n'y a rien prévu dans les grandes routes. Ils ont la peur au ventre pour pouvoir sortir. Donc, normalement, tout ça devrait être fait avec, pour le moment, comme il y a le ministère des Affaires sociales, nous espérons avoir enfin un ministère de l'handicap, comme il y a le ministère des Affaires sociales qui s'en occupe, devrait travailler en symbiose avec les travaux publics, devrait travailler en symbiose avec le travail, parce qu'il faut aussi l'intégration des personnes vivant avec handicap. Donc, pour ne pas prendre trop de temps, c'est un problème transversal qui touche tous nos ministères, sans exception.
Bien.
La deuxième question concernant les albinos, bien sûr. Oui, c'est une question qui est très importante. L'albinisme est un handicap de la peau. Et vous savez à quel point, et nous encadrons des enfants vivant avec handicap de la peau, et nous avons moi-même, j'ai des nièces qui vivent avec cet handicap-là, des nièces et des neveux. Donc c'est pour dire que le problème de l'albinisme est un grand problème et je félicite l'ancien catcheur Texas qui a une association qui est très forte et très puissante parce qu'il fait un travail extraordinaire. Mais c'est pas suffisant. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et tout doit reposer sur des lois. Parce qu'il y a encore des enfants qui sont tués pour des raisons de fétichisme, soi-disant on doit utiliser telle partie du corps d'un enfant albinos. Et tout ça doit arrêter, on doit vraiment arrêter tout ça. Malheureusement, la troisième question, je ne l'ai pas très bien comprise.
Alors, la troisième question de savoir si les pygmées aussi peuvent être traités d'handicapés. Est-ce qu'on peut dire que le fait d'être pygmée est un handicap?
Je peux dire oui, parce que nous-mêmes, nous avons une fille, d'ailleurs, Naomi, qui a créé son ONG, qui vit aussi avec handicap. La petite taille est un handicap. Dans tous les autres pays, la petite taille est un handicap. Vous savez que tout est mis à une hauteur normale. Alors, lorsqu'on vit avec une petite taille, c'est très difficile de pouvoir se mouvoir, même dans sa maison, même dans un magasin, etc. Alors, je ne sais pas si les pygmées peuvent être considérés comme des personnes vivant avec handicap. Peut-être leur petite taille, oui, pourquoi pas.
Alors, ça, c'était
les pygmées que je n'ai pas très bien saisies.
Voilà, ça, c'était la quatrième question. La troisième question, c'est de savoir quelle est la discipline qui s'occupe de l'handicap. Existe-t-il une discipline qui s'occupe de cela?
Par discipline, il veut entendre une discipline de l'État, un domaine de l'État
Un domaine d'études scientifiques qui s'occupe de cela.
Bon, l'handicap est vaste, hein. Il y a des domaines, oui, dans la médecine, on s'occupe de plusieurs handicaps, parce que vous pouvez être aveugle, vous pouvez être sourd, vous pouvez être sourd-muet, vous pouvez être albinos, vous pouvez avoir une petite taille, vous pouvez avoir une malformation physique des jambes, des bras, ou être né sans bras, sans jambes. Donc, c'est la médecine en général, et ça dépend maintenant de quel type d'handicap avec lequel vous vivez.
D'accord. Un autre auditeur en ligne, bienvenue, Lissala. Il nous appelle de Kisangani. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama et toute l'équipe de l'Occupation.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation, c'est celle-ci. Je vais systématiquement l'inviter. Je peux me donner les conditions pour la bonne marche de la facture avec un handicap.
Les conditions pour faire quoi?
Les conditions pour la bonne marche de la facture avec un handicap.
Oui, qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez un peu, bienvenue. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui.
Les conditions pour la bonne marche.
Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par la bonne marche, bienvenue?
Bonne marche. Oh. Comment je peux dire?
Est-ce que je
peux l'aider,
peut-être?
Voilà, oui.
Pour l'évolution de la
fibre. Ah, d'accord. Alors, les conditions pour l'évolution ou l'intégration, c'est ça, des enfants vivant avec handicap. Voilà. Bon, merci d'avoir appelé. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody, et bonjour à l'invité.
D'accord. Bonjour, on vous écoute.
Merci beaucoup, Jody. Je n'ai qu'une seule question à poser, mais je voudrais d'abord soulever un petit problème. C'est que pour dire, déjà, moi, à mon avis, je pense que la seule façon d'intégrer ces gens d'enfants et le mettre dans les conditions qui leur sont appropriées. J'ai suivi avant-hier sur question pour un champion. C'était lui qui a gagné, c'était un aveugle. Il faudra que l'État, comme l'indique l'article 49 de notre loi fondamentale, crée des écoles adaptées aux conditions de handicap. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on les met avec des personnes qui n'ont pas leur niveau, il y a toujours des discriminations. Et à ce jour, le bilan est négatif. Il n'existe pas de structure appropriée pour leurs choses. Alors, je n'ai qu'une seule question pour savoir. À ce jour, comme madame est activiste de ce domaine, comment se présentent les statistiques? Est-ce que le bilan a évolué ou toujours la même situation? Voilà ma seule question, je dis, je vous remercie.
D'accord, merci. Madame Yvette Kousseyo.
Oui, monsieur.
Vous avez la parole. Bienvenue. De Kisangani disait quelles sont les conditions pour l'évolution, pour d'avoir l'implication, disons l'intégration et réussir l'intégration et l'épanouissement des personnes vivant avec handicap.
Oui, je vais aller très vite. D'abord, comme je vais un peu me répéter, il faut d'abord accepter l'enfant par la famille. Et il faut apprendre maintenant à l'enfant à s'accepter. Il faut à tout prix donner l'éducation aux enfants vivant avec handicap. Et je dis même, il faut même à la limite faire une discrimination positive vis-à-vis des enfants vivant avec handicap en leur donnant une éducation gratuite. Parce que nous avons remarqué que la plupart des enfants vivant avec handicap sont issus des familles démunies. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a aussi des enfants vivant avec handicap dans la classe moyenne.
Alors faut-il,
je parle de la majorité.
Bien sûr, faut-il créer des écoles spécialisées pour ces enfants ou bien ils peuvent étudier ensemble avec les autres?
Je suis une défendrice, l'ONG Naomi, nous défendons l'éducation inclusive. Parce que l'éducation inclusive, ça veut dire lorsque l'enfant vivant avec handicap peut suivre les cours dans une école classique, il faut le mettre avec l'école. Alors maintenant, c'est là le problème. Il faudrait que l'école s'adapte. Ce n'est pas l'enfant vivant avec handicap qui doit s'adapter à l'école, mais c'est l'école qui doit s'adapter à l'enfant vivant avec handicap. Donc maintenant, il faudrait pouvoir rendre accessibles les écoles aux enfants aveugles, aux enfants sourds et muets, etc. Et peut-être, comme ça se fait en France et dans d'autres pays, avoir 2-3 fois par semaine les enfants qui évoluent dans une éducation inclusive, ça veut dire une éducation classique, et puis de temps en temps, ils peuvent aller dans l'enseignement spécialisé. Et je pense que c'est la meilleure chose pour que l'enfant soit accepté des autres et que pour lui-même puisse se battre et pour qu'il puisse créer son bagage à lui. Alors, il y a des enfants qui ne peuvent pas. suivre des cours dans une école classique. Alors, il y a l'enseignement spécialisé, mais j'aime, par exemple, je félicite d'ailleurs le préfet de l'Institut national des aveugles, qui, lui, a des enfants aveugles et des enfants valides. Et ça marche.
Dans une même école?
Dans une même école. Et l'école existe ici à Kinshasa.
Et les autres
mais je pense que
les autres enfants
devraient donner plus de moyens pour ça.
Oui, est-ce que...
Nous avons par exemple des étudiants. Nous encadrons deux étudiants aveugles à l'IFASIC. Mais ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne peuvent pas payer les études, on les chasse. Alors il faut faire une discrimination positive et leur donner cette chance d'être éduqués.
Voilà.
Donc c'est ça. Et je pense qu'il a... Il y a aussi
Omar Kigalo,
la question de
l'éditeur
de Kinshasa qui n'a pas bien compris, si
oui.
Vous pouvez répéter.
Et il veut savoir si comment se présente le bilan aujourd'hui. Est-ce qu'on a noté une certaine évolution dans la prise en charge de l'intégration des personnes vivant avec handicap ou pas?
Bon, dans la prise en charge effective, je dirais non. Mais maintenant, la loi, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut d'abord faire... la loi d'abord, et là je pense qu'il y a eu vraiment une grande évolution, et là maintenant il faudra maintenant passer à l'applicabilité maintenant de ces lois, et je pense qu'on va y arriver, et moi en tout cas j'ai bon espoir. On a un président des associations des personnes vivant avec handicap qui est très dynamique. Et nous lui faisons confiance, et je vois que le ministère des Affaires sociales prend aussi le problème des personnes vivant avec handicap à cœur. Et c'est à nous à pouvoir participer et à pouvoir donner aussi des recommandations dans ce genre de manifestation comme celle qui va se passer demain au centre Nganda.
Comment réussir à l'intégration sociale d'un enfant vivant avec handicap? On en parle aujourd'hui avec Madame Yvette Kousseyo, vice-présidente de l'ONG Noémie, les écoles du cœur.
Votre connexion Internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Joseph Fungu nous appelle de Kindu, patient Chitoko est à Lubumbashi. On commence avec Joseph de Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai une simple question à poser à notre invité. Pourquoi le gouvernement n'avait pas prévu à un enfant qui est né avec handicap d'être soigné gratuitement? Parce que nous avons un centre pour handicapé ici. Ce centre, quand vous voulez être soigné là-bas, quand votre enfant est né avec handicap, il faut, si vous voulez avoir les soins pour cet enfant-là, il faut encore payer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelques faveurs pour que le gouvernement nous pouvons aussi nous favoriser pour les enfants qui naissent avec handicap d'être soignés plus gratuitement?
Merci. Merci, Joseph. Patient Chitoko, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Vous me suivez?
Oui, allez-y, on vous écoute. Patient, désolé, apparemment aujourd'hui, décidément, il y a un problème au niveau de la liaison téléphonique. Bien. Madame Yvette, revenons à la question de Joseph. Il dit pourquoi les gouvernements n'accordent pas des facilités, pourquoi le gouvernement n'a pas prévu les soins gratuits pour les enfants qui naissent avec des handicaps.
Je salue l'auditeur de Kindu et je remercie pour la question. Lorsque je parlais de la discrimination positive, en fait, c'est ça. Il faudrait, et on va se battre pour ça, et je suis sûre que demain, on en parlera. C'est vrai qu'un enfant qui naît avec handicap, il faudrait que l'État puisse instaurer la santé gratuite. Et même dans d'autres pays, et je sais très bien que la RDC, nous allons parvenir à cela, les enfants vivant avec handicap sont pris en charge totalement par l'État et les familles ont une aide.
Parce que on ne se rend pas compte de ce que c'est élever un enfant vivant avec handicap. Ça prend énormément. Il faut aller à l'hôpital, il faut parfois des soins de kinésithérapeute, il faut beaucoup, beaucoup de choses. Et l'État devrait prendre en charge les soins des enfants vivant avec handicap. Mais je suis sûre que nous allons parvenir à cela.
Voilà. Mais au niveau de la personne vivant handicap elle-même, comment est-ce qu'elle peut arriver aujourd'hui à briser le complexe et à tailler une place de choix dans la société?
Ben, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, la personne vivant avec handicap doit d'abord s'accepter. Et ça, le concours de la famille, de l'entourage, de l'environnement joue énormément. Et lorsque la personne vivant avec handicap est instruite et a une activité professionnelle, etc., je pense que là, l'intégration est beaucoup plus facile. C'est ainsi que on ne doit pas toujours reléguer les personnes vivant avec handicap dans des études, on va dire, techniques, etc. On peut avoir des personnes vivant avec handicap occuper des grands postes en politique, dans les organismes internationaux, etc. Dernièrement, à New York, le gouverneur de New York était noir et était aveugle. Donc, on peut très bien vivre avec handicap et occuper des hautes fonctions et arrêter de voir une personne vivant avec handicap avec des yeux de pitié parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont simplement besoin qu'on les considère comme des personnes à part entière. Donc, il faudrait que la personne vivant avec handicap s'accepte et affronte le regard des autres. Et on n'affronte pas le regard des autres avec la violence, on affronte le regard des autres en prouvant de quoi on est capable. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est ce que nous avons fait avec notre fille Naomi, et aujourd'hui elle fait des grandes choses tout en vivant avec handicap.
Voilà. Merci, Madame Yvette Kousseo. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'ONG Naomi, les Écoles du Cœur. Merci d'avoir répondu à nos questions ainsi qu'à celles des auditeurs et à la prochaine.
Je vous remercie infiniment, monsieur. À la prochaine.
Au capitaine.